Chaque samedi à 8h30, Radio Capi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Capi pour anticiper des mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Bon arrivée à vous tous. On assiste depuis quelques années à une prolifération des banques dans la capitale et aussi certaines grandes villes de la République démocratique du Congo, ce qui pousse bon nombre des gens à ouvrir des comptes. Mais il peut arriver qu'une personne vous fasse un chèque sans provision. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dans ce studio Maître Dominique Tamwandou, avocat à l'ONG Avocat sans frontières. Voilà, donc il y a quand même une redondance permise. Bonjour Maître Dominique.
Bonjour Pierre.
Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi d'abord un chèque sans provision?
Merci beaucoup, JR. Nous précisons que cette infraction a été prévue en droit pénal congolais pour pouvoir sécuriser les transactions en matière commerciale et garantir le crédit et la confiance dans les affaires. Avant de parler de chèque sans provision, je pense qu'il est mieux que l'on précise d'abord ce qu'on entend par un chèque. Un chèque est un titre par lequel une personne qu'on appelle les tireurs donne l'ordre à une autre personne qu'on appelle les tirés de procéder à un paiement ou de remettre des sommes d'argent que cette dernière tient ou garde pour la première personne et de remettre cela à une tierce personne. C'est un titre qui circule, on l'appelle couramment dans le langage des affaires, on appelle la monnaie structurelle, c'est-à-dire le chèque représente la monnaie et facilite les transactions, sécurise les hommes d'affaires ou toute personne qui n'est pas obligée de traîner avec lui des grosses sommes d'argent pour pouvoir garantir la sécurité. Et pour ce faire, ces titres est considéré comme de l'argent en espèces. Il doit être entouré d'un crédit, c'est-à-dire d'une confiance. Et pour garantir cela, on a prévu ce qu'on appelle l'émission des chèques sans provision. C'est en cela que consiste l'infraction. On appelle l'émission des chèques sans provision le fait pour une personne d'émettre ce titre, d'émettre un chèque dont les découverts au niveau de la banque n'existent pas, fait défaut, ou même lorsque la provision est insuffisante. Lorsque une personne donne un chèque à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il procède à un paiement, mais lorsque ce titre ne peut pas donner lieu à ce que cette personne rentre dans ses droits, c'est-à-dire rentre effectivement en possession de la monnaie dont elle a besoin, ou lorsque la provision qui est à la banque n'est pas suffisante pour pouvoir couvrir la créance ou on parle de chèque sans provision. Mais on parle aussi de chèque sans provision, pas seulement lorsqu'on a tiré soi-même le chèque, même lorsque on a remis à une personne un chèque tiré par une autre personne. Je te donne un exemple. Moi, je te dois de l'argent. Je te donne un chèque.
Et moi, j'essaie de...
Et toi, tu prends le même chèque, comme c'est peut-être un chèque au porteur. Et tu prends ce chèque, tu le remets aussi à une autre personne. Le fait pour toi de remettre à une autre personne un chèque que toi-même tu n'as pas émis constitue aussi une infraction lorsque ce chèque et sans provision ou lorsqu'il y a une provision insuffisante.
Donc si je comprends bien encore vos propos, Maître Dominique, remettre un tel chèque est une infraction d'après la législation congolaise.
Effectivement, c'est une infraction qui est punissable d'une peine qui peut aller de 5 à 10 ans de prison.
Est-ce que le recours en justice en cas d'échec sans provision est-il possible en justice congolaise, surtout si je suis victime d'un échec sans provision?
Effectivement, le recours est possible. Toute personne victime peut se plaindre au niveau du parquet pour que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Et même la banque qui reçoit ce chèque sans provision peut aussi se relever les droits de porter plainte en justice contre les tireurs du chèque.
Alors, il peut notamment, Maître Dominique, ça c'est une question de curiosité, s'agir d'un retard dans le processus de créditer un compte. Parce que j'ai mon compte, après avoir fait des transactions, en fait, moi, dans ma tête, je me disais, le compte est déjà crédité, et j'ai le droit de mettre quand même un chèque et le remettre à quelqu'un. Et à celui qui j'ai remis le chèque, il se présente devant la banque, on me dit, ben voilà, c'est un chèque sans provision. Pourtant, il y a eu un retard au niveau du processus de créditer un compte.
Effectivement, lorsque nous analysons la loi, la doctrine et aussi bien la jurisprudence en la matière, pour cette infraction, contrairement aux autres infractions, la loi ne prévoit pas ce qu'on appelle le dol spécial. Le dol spécial, c'est-à-dire l'intention de nuire, l'élément moral qui fait que la personne qui a agi avait connaissance et voulait nuire à une autre personne. Mais pour cette infraction, la loi érige en élément moral la simple faute, la simple négligence, la simple imprudence de l'émetteur du chèque constitue une faute et cela est punissable.
Oui, mais alors, les bénéficiaires d'un chèque sans provision, si je reviens à vos propos, est vraiment protégé par la loi congolaise. Mais comment il est protégé, ces bénéficiaires?
Non,
la victime d'un chèque sans provision, il est protégé par la loi congolaise.
Les garanties que la loi met en place ici pour protéger, c'est de réprimer cette infraction pour ne pas amener les personnes à signer des chèques sans provision ou à rendre des chèques sans provision ou des chèques pour lesquels les provisions sont insuffisantes. C'est la première précaution qui est prise pour protéger les créanciers qui bénéficient de ces titres.
Mais en fait,
et une autre protection, c'est que cette personne, en cas de préjudice, peut saisir la justice pour obtenir paiement du principal et en cas des préjudices, demander même les dommages et intérêts pour les préjudices.
Oui, parce que l'opération que nous appelons les découverts bancaires, et cette petite opération est permise quand même au niveau de toutes les banques. Quelqu'un qui est client potentiel de cette banque peut quand même mettre aussi un chèque sans provision qui constituerait peut-être pour lui une demande d'un découvert bancaire.
À condition qu'il y ait une convention entre cette personne et sa banque et que la banque soit prête à servir en cas de présentation du chèque et de récupérer selon la convention qu'il a avec l'autre partie. Dans ces cas-là, le problème ne se pose pas. Mais on doit savoir que l'infraction se matérialise au moment de la présentation du chèque au niveau du guichet de la banque.
Nous avons en ligne Gilbert Moussoubaou de Boutembo. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Alors, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Alors, si le bénéficiaire du titre se met d'accord, on lui met un chèque, sa provision dans le compte, et là, on ne met pas la date. On se convient qu'il attend lorsque le compte sera provisionné pour aller retirer sa part. Est-ce qu'il y aura une autre infraction? C'est ma préoccupation.
Au regard de la loi, un chèque doit remplir certaines conditions. Il y a des mentions substantielle, qui lorsque ces mentions manquent sur un chèque, ce chèque n'est pas valable. Mais en matière de droit, le droit pénal a une autonomie. Ça, c'est en matière civile, le chèque n'est pas valable, on ne peut pas le présenter à la banque parce qu'il y a une mention essentielle qui manque. Mais sur le plan pénal, quand on tient compte de l'autonomie du droit pénal, même si ce chèque n'est pas régulier, n'est pas valable, dès lors qu'il est présenté à la banque, on constate la matérialité de l'infraction et la personne est poursuivable.
Donc c'est le code pénal congolais qui règle ce genre de litige.
Effectivement, nous sommes là en matière pénale, c'est une infraction prévue par le code pénal congolais.
Oui, ben ailleurs, on accorde 5 mois à 5 ans, donc autour de 5 mois, 5 ans, comme pénalité, et aussi des amendes. Est-ce que c'est le cas aussi pour la législation congolaise, mis à part la peine qu'on encourt? Est-ce qu'il y a au-delà de cela des amendes?
Effectivement, la loi prévoit des amendes. La peine est de 5 à 10 ans de prison. Et une amende, l'amende, comme la loi date de longtemps, est libellée en franc congolais, est libellée en Zaïre. Mais il y a un texte qui essaye d'équilibrer. On n'a pas le texte pour pouvoir apprécier aujourd'hui l'amende que ça représente. Mais en 1968, au moment de la promulgation de l'ordonnance loi qui prévoit cette infraction et qu'il y ait un texte complémentaire au code pénal congolais, l'amende prévue était de 6 à 30 zaïres. Bon, c'est à...
S'il faut chercher l'équivalent.
Oui, il y a un texte qui met en place des équivalences, mais on ne l'a pas ici. Mais si le juge est appelé à trancher, il a le texte, il va appliquer l'amende telle que prévue.
081-893-94, c'est pour les appels.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Voilà, nous avons en ligne Victoire Dikoulou qui nous appelle de Kalemie. Bonjour Victoire.
Bonjour.
Alors Victoire, vous nous appelez, quelle est votre préoccupation?
Je vous appelle à partir de Kalemie, ma préoccupation est celle-ci. Au cas, que prévoit la loi au cas du décès de bénéficiaire de ces titres?
Voilà, c'est lui qui émet les titres.
La deuxième question est celle-ci. Au cas de la perte de ces titres, le bénéficiaire va aller se prendre où?
Merci beaucoup Victoire pour ces deux questions très pertinentes. D'abord, en cas de décès de celui qui a émis ces titres, je crois que la personne qui se présente devant les guichets aura des ennuis.
La personne, bon, je crois que l'auditeur a parlé
du cas de décès.
Du décès du bénéficiaire du titre. Le bénéficiaire du titre, c'est la personne à qui on a émis
le titre.
Voilà. En cas de son décès, son droit persiste, sa succession peut continuer l'action ou poursuivre, demander le paiement. Mais en cas du décès de l'auteur, du tireur du chèque, l'infraction en matière pénale est individuelle et le décès du tireur est éteint l'action publique. On ne peut plus poursuivre en matière pénale. Mais en ce qui concerne les intérêts civils, les bénéficiaires peuvent toujours...
Donc, en cas de décès du tireur, le tiré est protégé. Donc,
Le tiré, c'est la banque. Le tiré n'a pas de problème.
Oui.
C'est le tireur qui a commis l'infraction.
Oui.
En cas du décès du tireur, il y a extinction de l'action publique. On ne peut plus poursuivre l'infraction en matière pénale étant individuelle. Mais les intérêts civils peuvent être toujours postulés auprès des héritiers pour qu'avant la liquidation de la succession, les héritiers puissent, ou les liquidateurs puissent procéder au paiement au bénéfice
des bénéficiaires. En cas de perte de titre.
En cas de perte de titre, on doit le signifier au tiré, donc à la banque, et faire opposition pour que la personne qui va ramasser ses titres ou qui l'a volé ne puisse pas s'en servir. Et là aussi, si les titres se perdent, à ce moment-là, il n'y a pas encore commission de l'infraction. Parce que l'infraction se matérialise réellement au moment de la présentation du titre à la banque. En cas de perte, le bénéficiaire est tenu d'aller vers les tireurs pour exiger son paiement et demander au tireur de faire opposition au niveau de la banque.
Alors, est-ce qu'un chèque sans provision, ça c'est une curiosité également, M. Dominique, équivaut à l'escroquerie ou à l'abus de confiance?
Non,
c'est
une infraction distincte. Chaque infraction a ses éléments constitutifs. On ne peut pas distinguer les deux.
Alors,
effectivement, quelqu'un peut se servir d'un chèque sans provision pour escroquer. Ou on peut remettre un chèque
sans provision pour escroquerie. Un cas de figure pareil, une dame qui a vendu une voiture à une personne, et la personne, c'est la personne qui a acheté une voiture auprès de cette femme, et la personne a émis un chèque sans provision. La dame s'est présentée devant la banque, au fait, pour se rendre compte qu'elle s'est présentée avec un chèque sans provision. Par la suite, elle est allée en justice, et elle a évoqué les cas d'escroquerie, donc elle s'est fait escroquer.
Bon, ça dépend des faits, parce que on n'entend pas escroquerie, le fait d'user des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre un bien. Lorsqu'il y a une vente conclue en bonne et due forme et qu'il y a défaut de paiement, par exemple, il y a cette situation qui intervient, le chèque sans provision, et c'est une personne qui fait recours à cette modalité pour pouvoir payer tout en sachant que la personne ne rentrera pas
dans
ses droits, s'il a usé des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre un bien et remettre un chèque en retour, on peut considérer cela comme infraction. À ce moment-là, on se retrouve en face de deux infractions. Il y a l'infraction moyenne et l'infraction résultat, c'est-à-dire une infraction qui a servi à la commission d'une autre. Donc,
j'imagine, n'appelle pas au-delà de 10 ans.
Non.
Parce que déjà avec les sections provisoires, on appelle 10.
Dans ces cas-là, on retient les deux infractions et on prononce la peine la plus lourde, la plus forte. Comme pour les sections provisoires, la peine peut aller jusqu'à 10 ans et que peut-être en cas d'escroquerie, c'est moins. Là, on prononce la peine la plus forte, soit 10 ans de prison.
Alors concrètement, comment on doit procéder pour faire recours en justice si jamais on est victime de chèques sans provision? On va commencer par où et quelles sont les étapes à suivre?
En principe, pour porter plainte, on doit
se présenter devant le tribunal.
On rédige une plainte que l'on dépose au parquet et le parquet va ouvrir un dossier, instruire. Mais lorsqu'on a déjà réuni tous les éléments de preuve et qu'il n'est plus nécessaire de passer par des enquêtes ou excusez-moi, ou par une instruction préjuridictionnelle, on peut directement saisir les tribunaux de grande instance par voie de citation directe.
Alors, s'il s'agit des commerçants, en fait, toutes les transactions ont été effectuées par des commerçants, est-ce que c'est le parquet ou le tribunal de commerce?
Lorsqu'il s'agit des commerçants, le même parquet de grande instance reste valable, on peut se plaindre au parquet. Mais lorsqu'il s'agit d'aller devant les tribunaux, à ce moment-là, cela relève de la compétence du tribunal de commerce, là où il est déjà opérationnel, comme à Kinshasa, comme à Lubumbashi, parce que dans d'autres provinces, il n'est pas encore installé.
Oui, ben alors le tribunal de commerce peut arrêter une décision, et si cette décision est contestée par la suite, y a-t-il possibilité d'aller à l'appel?
Effectivement, la partie qui n'est pas contente de la décision rendue peut aller en appel devant la cour d'appel du ressort.
La cour d'appel du ressort. Nous avons Georges Moteba de Kinshasa. Bonjour Georges.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelé. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Lorsque quelqu'un émet un chèque qui n'a pas de provision à la banque, mais lorsque maintenant quelqu'un émet un chèque dont dans notre pays, il y a des gens qui sont déchiffrés alors qu'il n'a même pas un compte dans cette banque-là. Mais il fait avec ça des gaffes et tout ce qu'il va avec. Et ce monsieur-là promet qu'on va le traiter devant la justice puisqu'il a un chéquier qui n'a même pas identifié au niveau de la banque. Mais aussi, qu'il est la part aussi de la banque puisque c'est un chéquier qui circule d'une banque et dont le monsieur ne pas le connaît à cette banque-là.
Évidemment, une banque qui tombe sur un tel document et qui vérifie dans ses listes, qui voit que cette personne n'est pas son client,
n'est pas répertorié,
peut se plaindre pour faux en écriture, parce que ce chèque est un faux en écriture qui est émis au détriment de la banque et même au détriment des autres bénéficiaires. Là, il y a l'infraction des faux en écriture. Si ce chèque est émis dans le cadre d'une opération, ça peut être pour escroquer, ça peut être une escroquerie. Donc la banque a aussi les droits de se plaindre en justice pour que cette personne puisse être poursuivie et sanctionnée.
Voilà. Alors, est-ce que dans la justice congolaise, les victimes obtiennent très facilement réparation?
Effectivement, nous avons...
Déjà avec les cas que vous avez reçus, est-ce que les gens obtiennent facilement la réparation?
Bien que amener un procès aujourd'hui dans le contexte de la justice congolaise, amener un procès de la saisine à l'aboutissement, c'est-à-dire à un jugement, et faire exécuter ces jugements n'est pas chose facile. Mais des victimes obtiennent quand même réparation devant la justice. Il y a des jugements qui sont rendus. Une autre difficulté, c'est qu'on se retrouve devant des jugements et qu'on a difficulté à pouvoir les exécuter lorsque les personnes condamnées ne présentent pas suffisamment des garanties de paiement.
Oui, alors ma plus grande préoccupation, maître Dominique, c'est de savoir, disons, au niveau de la RDC, il y a des villes qui n'ont pas des tribunaux, des commerces. Alors comment ces gens-là, ils se prennent pour peut-être régler leurs litiges, surtout les commerçants?
Non, là où il n'y a pas des tribunaux de commerce, les tribunaux des grandes instances sont compétents pour toutes les matières relatives aux droits commerciaux ou aux droits des affaires.
Voilà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, le chèque sans provision est classé parmi des infractions graves dans la législation congolaise?
Bon, la gravité en droit congolais, on ne connaît
pas. Enfin, quand nous soit dit, il y a quand même, à un certain niveau, on catégorise les infractions.
Bon, en droit congolais, cette catégorisation n'est pas démise, parce que si nous allons, par exemple, nous faisons du droit comparé, nous allons, par exemple, en France, on distingue les contraventions, les délits et les crimes, selon les degrés de gravité. Mais en droit congolais, cette distinction n'est pas faite. On se rend compte qu'il s'agit d'une infraction grave au regard du taux de la peine.
C'est le législateur qui a voulu ainsi.
Oui, ou... c'est le législateur qui.
Et pourtant, le droit congolais, c'est quand même un droit qui suit des normes. Nous avons quand même des soubassements français.
Effectivement, nous inspirons plus du droit belge, du droit napoléonien. Mais la gravité d'une infraction peut être déterminée au regard de la peine encourue. C'est-à-dire, toutes les infractions n'ont pas de même peine. Il y a des peines qui sont punissables des 2 mois, 6 mois. On se rend compte qu'il s'agit d'infractions qui ne sont pas graves, de simples infractions. Il y a des peines pour lesquelles il y a des infractions qui vont jusqu'à 10 ans. On comprend là qu'il y a déjà une certaine gravité, une dose de rigueur et de sévérité dans la répression au regard de la nature des faits et même des peines qui vont jusqu'à la servitude pénale, la perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Donc la gravité peut être appréciée au regard du taux de la peine.
Oui, parce qu'aujourd'hui, si les gens se livrent à ce genre de pratiques, c'est parce que cette infraction n'est pas considérée comme une infraction très grave, très sérieuse, un événement qui pourrait peut-être susciter l'attention de tout le monde.
Non, mais moi je pense que le législateur est quand même rigoureux parce que pour une infraction dont la peine peut aller jusqu'à 10 ans de servitude pénale, ce n'est pas une infraction légère. Vous pouvez vous imaginer ce que représente priver une personne de la liberté pendant 10 ans.
Mais parce que sous d'autres cieux, on demande à faire que ce genre de litiges soient traités à l'amiable.
Mais si chez nous on les considère comme une infraction et qu'on prévoit une peine sévère qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison, c'est pour dire que les législateurs, c'est une peine grave, c'est une infraction grave.
Mais laisser les gens résoudre ça à l'amiable, c'est quand même une bonne procédure.
Bon, comme la loi ne l'interdit pas, et même au niveau du parquet, lorsque les parties se mettent d'accord, on peut procéder, par exemple, au classement de l'affaire pour inopportunité des poursuites, mais c'est une action pénale, même lorsque les gens règlent à l'amiable, le ministère public a le droit de poursuivre s'il estime cela nécessaire pour rétablir l'ordre public.
Alors, quelqu'un qui est tombé sous le coup de chèque sans provision par 2 ou par plusieurs fois, est-ce que la loi congolaise prévoit des dispositions particulières?
L'auteur.
Non,
mais dans ces cas-là, on considère que c'est un récidiviste, c'est un délinquant d'habitude, et cela peut être considéré comme une circonstance aggravante pour prononcer le maximum de la peine.
Donc, une situation pas atténuante, mais aggravante.
Oui, la récidive ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante. C'est une circonstance aggravante qui fait voir qu'il s'agit d'un délinquant d'habitude.
Alors, on va terminer avec une intervention de Pierre Ngoy de Kamina. Je ne sais pas si c'est Kalima, voilà, on va peut-être laisser. Pierre Ngoy, vous êtes à Kamina, bonjour. Bonjour Pierre Ngoy.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors vous êtes à Kamina, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, je pense, y a-t-il pas de escroquerie lorsqu'on vous a livré déjà un chèque expiré et que vous allez aussi vous échanger contre le papier? Dans le cas de la maman qui est allée se plaindre au niveau du parquet.
Oui, de la justice.
Donc, alors, il n'y a-t-il pas d'escroquerie à celui qui a livré déjà un chèque expiré?
Voilà, donc on revient sur la question que je voulais poser, Maître Dominique, sur l'escroquerie. Est-ce qu'aujourd'hui, les chèques sans provision constituent une escroquerie?
Lorsque les conditions qui ont entouré l'émission du chèque sans provision reprennent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, à ce moment-là, l'escroquerie, c'est l'infraction principale, et le chèque sans provision, c'est l'infraction moyenne. Mais lorsque les éléments ne sont pas retenus, parce que pour qu'on parle d'escroquerie, nous avons dit il faut qu'il y ait manœuvre frauduleuse et qu'il y ait une remise, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait remettre un bien en faisant croire à un paiement, en faisant croire à la livraison d'une chose, en usant des manœuvres frauduleuses. Mais dans le cas d'espèce, on ne se fait pas remettre un bien, c'est l'auteur de l'infraction qui livre l'échec. Je ne sais pas si on se comprend.
Oui.
Voilà,
oui.
Là, à ce moment-là, il a par exemple négocié une vente. Il a négocié une vente, ils se sont mis d'accord sur les conditions de la vente, et la personne devait payer. Et il, au lieu de payer, il donne un chèque en provision. Ça peut être une situation de quelqu'un qui se voit et dit, bon, si pour obtenir ce bien, la personne a usé des manœuvres frauduleuses, il s'agit de l'escroquerie. À ce moment-là, l'infraction principale, c'est l'escroquerie. Il y a deux infractions.
Mmh.
Voilà. Et lorsqu'on les cumule, on dit qu'il y a concours idéal, comme on dit en droit.
On
prend la sanction la plus grave. Mmh. Prend la sanction la plus grave pour les deux.
Oui, comme le chef de provision, l'administration congolaise prévoit 10 ans.
Donc voilà, à ce moment-là, c'est cette infraction qui
est. Et l'escroquerie, c'est moins d'ailleurs.
Voilà.
C'est moins, donc on prend
la peine la plus grave.
La plus grave. Voilà, Maître Dominique, c'est par ici que nous allons, nous arrêter là, avec cet entretien avec vous sur les chèques sans provision. Et nous rappelons à nos auditeurs qu'en deuxième partie interactive, nous allons parler de comment aider un élève à vivre positivement un échec scolaire et surtout. Nous avons constaté, c'est le constat que nous avons fait après la publication des résultats de l'examen d'État. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, en tout cas découragés, par deux, par trois fois, ils veulent échouer. Donc on va aider un peu comment surmonter et accepter positivement ces résultats. Avec vous, Maître Dominique, on s'arrête là et bonne semaine.
Merci.
Thank you.